voir dans nos vies et dans n'importe quel domaine de notre vie de l'accusation, parce que l'accusation, c'est l'état d'esprit de Satan. Et évidemment, nous n'avons pas l'intention de marcher dans l'état d'esprit de Satan, nous voulons marcher dans l'état d'esprit de Jésus-Christ, alléluia, que le Saint-Esprit veut nous insuffler de jour en jour par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Je me suis levé cette nuit et je demandais au Seigneur quel était le message pour ce soir, puisque j'ai toute une liste de messages qui peuvent rentrer dans ce thème, le changement des mentalités. Et il m'est venu ce message sur la puissance de la grâce. Et lorsque je me suis remis à l'éplucher, je me suis rendu compte qu'il était complémentaire vraiment avec celui d'hier soir et que même plusieurs des mêmes versets y étaient cités. Vous savez qu'il y a plusieurs manières de rentrer dans la présence de Dieu. Là aussi, Dieu aime la différence, dont il n'a pas limité les manières pour entrer dans sa présence. Il y a plusieurs chemins, manières pour parvenir à la présence de Dieu, et ces manières ne sont pas obligatoirement accessibles à tout instant. Vous avez remarqué que quelque chose qui marche un jour, vous le refaites le lendemain, ça ne marche pas obligatoirement. Vous avez remarqué qu'une prière qui marche un jour, vous la refaites le lendemain, elle ne marche pas obligatoirement. Amen. Parce qu'un jour, il va falloir rentrer dans la présence de Dieu d'une manière, et un autre jour, il va falloir rentrer d'une autre manière. Et lorsque nous n'enseignons pas tout le conseil de Dieu, nous enseignons toujours qu'une seule manière pour entrer dans la présence de Dieu, ou bénéficier de la bénédiction de Dieu, nous limitons le peuple, nous nous limitons, parce que Dieu, lui, n'est pas limité. Amen. Ces manières ne sont pas obligatoirement accessibles à tout instant, mais elles dépendent, bien sûr, de la volonté de Dieu. Ça dépend aussi de l'état spirituel dans lequel nous nous trouvons à l'instant. Et vous savez comme moi qu'on est dans des états spirituels différents selon les jours, selon les mois, selon les semaines. Et nous y reviendrons plus en détail. Vous savez, il en est comme pour monter sur une montagne. On peut prendre plusieurs chemins ou on peut utiliser plusieurs manières pour arriver au même sommet de la même montagne. Vous pouvez monter à pied. Vous pouvez monter à dos d'âne, vous pouvez aussi prendre un hélicoptère, spécialement si vous êtes handicapé et que vous ne pouvez pas monter à pied. Et dans la vie du chrétien, on peut dire qu'on peut parvenir dans la présence de Dieu sous diverses formes en fonction de notre forme à nous, je dirais, du moment, et de nos capacités du moment. Je voudrais vous montrer ce soir combien Dieu n'est pas limité. Et si nous le limitons, nous nous limitons nous-mêmes. Alors, on peut rentrer dans la présence de Dieu par des efforts. Et mon message ce soir n'a surtout pas pour but de nous décourager à faire des efforts. Dieu nous encourage à faire des efforts, amen. Et certainement, pour plusieurs, peut-être il a fallu faire des efforts pour venir à cette réunion. Parce que vous savez, parfois lorsqu'on vient pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, le diable fait tout dans la journée pour qu'on ne puisse pas venir. Vous le savez. Donc il faut faire des efforts, il faut surmonter notre chair, surmonter certains obstacles, alléluia. C'est peut-être la voiture qui est tombée en panne, eh bien il faut se faire prêter une autre voiture ou la réparer avant de venir. Donc les efforts sont une chose biblique, amen, tant qu'on ne compte pas sur eux pour être justifié devant Dieu. Merci Seigneur pour la prière, merci Seigneur pour les jeûnes, et tout chrétien, et spécialement tout ministère, est appelé à prier et à jeûner régulièrement, donc à faire des efforts. Oui, Dieu récompense les œuvres et les efforts qui ne sont pas faits comme un moyen de se justifier, mais qui sont une conséquence de son amour, de sa grâce répandue en nous. Parce que vous recevez l'amour de Christ, eh bien vous voulez faire des efforts pour lui plaire, c'est logique. Amen. Mais vous ne pouvez pas compter sur ces efforts pour être justifié, parce que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Amen. Mais cette foi va automatiquement engendrer des œuvres. Amen. C'est une question de priorité. On peut rentrer dans la présence de Dieu par la louange. Mais spécialement lorsqu'on sait saisir l'esprit de louange. Lorsqu'on arrive à saisir l'esprit de louange, cette louange nous transforme. Vous pouvez avoir le plus grand orchestre avec la plus grosse technique sur cette estrade ce soir, si vous n'arrivez pas à saisir l'esprit de louange, il vaut mieux quelqu'un qui joue faux et qui chante de faux, avec un cœur de louange. Amen. Saisir l'esprit de louange pour entrer dans la présence de Dieu, c'est plus que d'avoir quelque chose de parfait, parce que nous allons y revenir. Eh bien, Dieu nous sauve et nous avançons dans sa présence par grâce. Et c'est sur ce dernier point que je veux insister à travers ce message. D'autres fois dans la vie, nous sommes appelés à nous approprier la grâce, je dirais, plus que de normal. Il y a des jours où on a besoin d'une bonne dose de grâce, n'est-ce pas? Qu'on soit dans le ministère ou qu'on n'y soit pas, il y a des jours où la dose de grâce habituelle ne suffit pas. On a besoin d'une super dose de grâce. La Bible nous encourage à faire des efforts, je l'ai dit, et la grâce en effet est efficace pour celui qui s'efforce de plaire à Dieu, pas pour celui qui se laisse vivoter, parce que Dieu rémunère les efforts. Maintenant, il y a des jours où il semble que nos efforts ne servent à rien. Vous connaissez ces jours où vous vous sentez plus minable après avoir fait des efforts qu'avant d'en avoir fait. Est-ce que je parle à des gens qui comprennent ce que je veux dire? Vous êtes tous trop spirituels, vous êtes arrivés tous à être tellement spirituels que vous n'arrivez plus à saisir ce genre de langage, amen? Il y a des jours où on se sent encore plus minable après avoir fait des efforts qu'avant d'en avoir fait, alors qu'on a fait des efforts pour se sentir moins minable. Et ces jours-là, on a besoin d'une grâce particulière et supérieure. Et c'est un processus qui se produit régulièrement pour toute personne, je vous rassure. Hier soir, on vous a rassuré dans d'autres domaines. Amen. Si vous sentez faible dans la chair, si vous êtes tenté. Et je vous rassure aussi, il est normal pour tout enfant de Dieu qui se bat pour entrer dans le plan de Dieu, de connaître ces périodes où il a besoin d'une dose de grâce particulière. Et si vous connaissez ces états, ne pensez pas, je suis le seul qui suis à côté de la plaque dans cette église. On peut imaginer, vous savez, un guerrier avec son bouclier, sa cuirasse, son épée. Et parfois, ce guerrier, il affronte un ou deux, trois ennemis. Il s'en sort bien. Déjà, il s'en sort par la grâce, n'est-ce pas? Mais d'autres fois, il est attaqué de tous côtés. Ça t'arrive pas de te lever le matin et tu te dis, aujourd'hui, Satan, il a décidé de me rayer de la carte. Il n'y a rien qui marche. Tu fais démarrer la voiture, elle démarre pas. Amen. Déjà, pour te lever, c'est difficile. Tu lis ta Bible, tu trouves pas un seul verset qui te fasse du bien, tu trouves que de la condamnation. Tu es tombé dans les mauvais endroits. Tu donnes un coup de fil, ça répond pas, c'est occupé. Rien ne veut marcher. Là aussi, il y a des connaisseurs ici. Alors parfois on est attaqué de tous les côtés. On se bat, on se bat, on se bat. Vous allez à la boîte aux lettres, il y a une énorme note d'électricité ou d'eau. Amen. Alors que vous aviez prié toute la semaine pour voir le gros chèque bénédiction de Dieu arriver. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas arriver, mais ça veut dire qu'avant qu'il arrive, parfois il arrive d'autres choses désagréables. Amen. Et il y a des jours plus désagréables que d'autres. Enfant de Dieu ou pas, pasteur ou pas. Amen. Et c'est un tort d'essayer de faire croire aux gens que marcher par la foi, eh bien, c'est toujours, toute la journée, être dans une espèce d'euphorie. La foi, c'est surmonter les obstacles malgré les obstacles. La foi, c'est rester sur la montagne, dans sa tête et dans son cœur, quand on est dans le désert, dans ce qu'on vit tous les jours. Amen. L'homme de foi, c'est pas celui à qui tout réussit toute la journée. C'est celui, lorsqu'il passe dans le désert, il reste dans sa tête sur la montagne. Voilà la différence. Amen. Alors, il y a des moments où on a l'impression qu'on n'y arrive plus. Et je crois qu'il y a un message particulier pour plusieurs ce soir. Et si vous êtes découragé en ce moment, vous allez ressortir de ce lieu. Amen. Fortifié. Tournez-vous vers quelqu'un. Dites-lui, si tu rentres dans la catégorie des découragés ce soir, tu as bien fait de venir. Amen. Alors vous savez, dans ces moments auxquels je fais allusion, qui ne représentent pas tous les moments de notre vie, gloire à Dieu, mais dans ces moments, la cause n'est pas que vous ne voulez pas. La cause est que vous ne pouvez pas. Ce que vous pouviez faire assez facilement la semaine d'avant, vous n'y arrivez pas cette semaine. Parfois, vous êtes battu, 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 et vous êtes toujours dans la foi, mais vous êtes fatigué. Alléluia. Vous êtes physiquement et moralement fatigué, tout en restant dans la foi, spirituellement parlant. Il n'y a aucune honte à cela, ça ne veut pas dire que vous vous voterez dans le péché. Vous êtes normal. Alléluia. Qui est normal ici? Donc, il y a une église assez normale, ça fait plaisir. Ah, parfois on débarque dans des lieux, je vous dis, c'est pas si normal que ça.
On ne sait plus ce qu'il faut prêcher.
Dieu le sait lorsque nous sommes éprouvés. Dieu le sait lorsque nous sommes fatigués. Il ne nous condamne pas. Et en fait, dans son plan, il a choisi, il a prévu une porte de sortie pour chaque période par laquelle nous passons. En fonction de ce qu'il sait que nous pouvons ou ne pouvons pas. Sinon, Dieu serait injuste. Vous savez que Dieu est juste? Amen. Et c'est un des messages que nous devons donner à cette société et au monde chrétien, c'est que Dieu est juste. Amen. Parfois, nous tombons tellement dans des déséquilibres que nous donnons l'impression qu'il est injuste. Et nous le présentons de manière injuste. En fait, il a choisi de nous sortir de chaque période difficile à sa manière. Rappelez-vous cette vérité, Dieu ne vous demande jamais de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Dieu ne vous demande jamais de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Vous savez, il ne dit pas dans sa parole, va et débrouille-toi pour avoir toute la force nécessaire. Non, il dit, va avec la force que tu as, pas avec celle que tu n'as pas. Comment tu veux aller avec la force que tu n'as pas? Et selon les jours, nous avons plus ou moins de force. Amen. Vous avez remarqué, parfois vous vous levez, vous avez mangé du lion de Juda. Amen. Vous claquez des doigts et tous les démons sautent de votre chemin les uns après les autres. Et le lendemain, vous claquez avec les mêmes doigts et vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont les doigts aujourd'hui? Amen. Ça ne veut pas dire que les démons ne vont pas fuir, mais ils vont mettre un peu plus de temps. Amen. Et je ne dois pas rester lié par mes doigts. Je dois être lié par ma foi. Amen. Et la Bible dit, résistez à Satan et il fuira loin de vous. Ce qui sous-entend qu'il y a des moments... Ça prend un temps pour résister avant qu'il fuit. Et d'ailleurs, dans le texte original, ça sous-entend le fait qu'il fuit terrorisé. Satan nous craint. Satan connaît les droits que nous avons. Maintenant, il veut s'assurer que nous aussi, on les connaît. Amen. Alors, il résiste pendant un moment. Alléluia. Pour voir si on sait quelle est notre autorité. Et parfois, vous êtes compressé contre le mur. Et je voudrais vous dire une chose, quand vous êtes compressé contre le mur... Ne glorifiez pas Satan, ne dites pas, il est en train de me presser, de me compresser. Lui aussi est compressé à cet instant. Il ne veut pas que vous ayez cette image. Vous êtes compressé, mais lui aussi il est compressé. Il y a un bras de fer, alléluia, qui se fait. Et si vous persévérez, vous avez cette assurance, il fuira loin de vous, et le texte original précise, comme terrorisé, comme un petit chien. Amen. Vous savez, un jour, c'est un serviteur de Dieu qui chassait un démon d'une personne et le démon a commencé avec une grosse voix. Je vais te frapper, je vais frapper ta famille, je vais frapper tes enfants. Le serviteur de Dieu lui a dit, tais-toi maintenant et sors. Alors d'un coup, la voix du démon l'a changé. Il a entendu une petite voix qui lui a dit, mais où je vais aller alors? Alors, il y a un temps pour résister, amen, pour que le diable se dévoile pour ce qu'il est. Mais pour qu'il se dévoile pour ce qu'il est, il faut que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous vous dévoiliez pour ce que vous êtes. Amen. Revêtu d'autorité. Et pour cela, vous ne pouvez pas marcher par la chair, par ce que vous sentez, vous êtes obligé de marcher par la foi. Amen. Et si tous les jours étaient des jours faciles parce que nous sommes des enfants de Dieu, il ne serait pas question d'un combat de la foi. Dieu aurait dit, t'inquiète pas, ça va marcher tous les jours. Amen. Va avec la force que tu as. Il y a des moments dans la vie où nous avons plus ou moins de force. Et Dieu va nous demander plus ou moins en fonction du moment. Il y avait un homme qui fut un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, c'est le prophète Élie. Et le fait que cet homme soit un grand prophète n'était pas incompatible avec cette autre vérité, c'est que Élie était un homme de la même nature que nous. Élie fonctionnait comme Michael Réal. Il fallait qu'il mange à midi. Élie, il allait aux toilettes. Oui, il était normal. On a l'impression parfois les grands prophètes, les serviteurs de Dieu, ils s'enferment dans les cavernes, ils mangent plus que des racines. Oh, c'est le grand serviteur de Dieu. Mais non, c'était des gens de la même nature que nous. C'est bien pour ça qu'on peut tirer enseignement de leur vie. Les extraterrestres, je ne peux pas tirer enseignement de leur vie. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Et que signifie qu'il était de la même nature que nous? Ça signifie qu'il était sujet aux mêmes faiblesses, aux mêmes imperfections. Il était comme nous, il était à la fois habité par le divin et par l'humain. Et chacun de nous, mes amis, étant nés de nouveau, nous sommes habités par le divin, mais étant encore dans des corps de chair, nous sommes aussi habités par l'humain. Alors il y a des jours, l'humain, il est un peu plus pesant que d'habitude. Alléluia. Et c'était le cas d'Élie, homme de la même nature que nous, habité par le divin et l'humain. Et lorsque le divin le dominait, rien ne lui était impossible, il faisait descendre le feu du ciel. Mais quand l'humain reprenait le dessus, il devenait misérable. Cet homme avait, sous l'influence du divin, bravé tous les prophètes de Baal. Et il avait détruit leur puissance. Et il s'est retrouvé quelques jours après, trop humain, fuyant devant les menaces d'une seule femme, Jézabel. Et là, nous avons un enseignement important. C'est après nos plus grandes victoires que nous pouvons avoir nos plus grandes chutes si nous ne veillons pas. Vous savez, lorsque nous avons une grande victoire, nous avons l'impression que l'onction va nous garder tout seul. Quand nous sommes serviteurs de Dieu, nous nous trouvons souvent sous une onction particulière sur cette estrade. Et si on ne veille pas, on a l'impression que quand on va descendre, on va avoir une onction particulière pour vivre la vie chrétienne. Et voilà, dès que vous descendez de l'estrade, dès que vous avez fini votre enseignement, si vous êtes un enseignant, votre prédication, si vous êtes un prédicateur, vous vous retrouvez avec la même onction que les autres pour vivre la vie de tous les jours, à affronter le même diable et dans la même chair. Et en plus, vous avez une responsabilité encore plus grande que les autres, c'est que vous, vous avez prêché la chose et vous avez intérêt de la vivre. Amen. Parfois les gens disent, oh, pour lui c'est facile. Non, pour lui, il y a encore plus de responsabilité parce qu'il a prêché du haut d'une estrade. Amen. Dans sa fuite, eh oui, il a détruit les prophètes de Baal, et puis voilà que d'un coup il est en train de fuir. Qui n'a jamais fui dans sa vie chrétienne? Fatigué, saturé. Et il a fait une prière qui n'avait rien de transcendant, hein. Très terre à terre, du genre, au Seigneur, j'en ai ras le bol. Vous avez jamais fait cette prière? J'ai évolué, je continue à évoluer, amen. Mais il y a des jours, elle viendrait facilement. Ça ne veut pas dire qu'on se vautre dans le péché, mais les pressions de la vie, alléluia. Un roi 19.4, il nous est dit, pour lui, Élie, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Et il demanda la mort en disant, mais dis donc, il est dans la dépression là. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Moi, je ne crois pas qu'il voulait mourir, Élie. Vous savez, c'est comme certains chrétiens. Seigneur, tue-moi. Si Dieu répondait, bon, c'est bon, je vais te tuer. Oh non, Seigneur. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Ça vous est jamais arrivé? Oh Seigneur, j'en ai marre de la vie, ça suffit maintenant. Bon, ça va, ben je vais t'appeler auprès de moi. Seigneur, je plaisantais. Il faut pas le prendre comme ça, Seigneur. Voyons, on peut parler quand même. Et je crois qu'il dit, il était dans ce même état d'esprit. Il était un homme de la même nature que nous. Amen. Ça rassure de voir des grands prophètes avoir été des hommes de la même nature que nous. Donc vous pouvez devenir un grand prophète, une grande prophétesse. Gloire à Dieu. Alors, quelle a été la réaction de Dieu? Et c'est là-dessus que nous voulons insister ce soir. Est-ce que Dieu lui a dit, Élie, tu n'es pas digne de moi? Comment toi, le grand prophète, d'ailleurs la Bible dit qu'il donnera un verre d'eau à un de ses petits parce qu'il est mon disciple. Est-ce que Dieu lui a dit, Élie, tu n'es pas digne de moi? Comment toi, le grand prophète? Ainsi parle l'Éternel, Élie, tu me déçois. Non, regardez, si vous avez vos Bibles, nous sommes dans 1 Rois chapitre 19, nous avons lu le verset 4, regardez le verset 6. Et il, Élie regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but et se recoucha. Dieu n'est même pas rentré dans la discussion avec Élie. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'Élie n'était pas en état. Ça, c'est comme pour certains couples. Parfois, ils arrivent le soir, ils reviennent, le mari rentre du travail, il est épuisé, la femme a s'est occupée des gosses qui ont retourné la maison pendant toute la journée à l'envers, elle est épuisée, et ils veulent régler un point. C'est pas le moment. Amen. Il faut dire à votre mari, chérie, tiens pas un état ce soir. Mais vous avez ces chrétiennes têtues. Non, il faut régler ça, sinon on se couche pas. Mais si, couche-toi, alléluia. Bénis le Seigneur, bénis ton conjoint, et demain matin, frais dispo, vous discuterez de la chose, et tu verras que la montagne, c'est devenu un tas de sable. Mais le soir, quand on est fatigué, c'est pas le moment de parler des montagnes. Hein, c'est pas le moment que votre mari vous raconte tous les problèmes qu'il a eu dans la journée, et que vous lui racontez tous les problèmes que les enfants vous ont créés. Ça va faire deux montagnes de problèmes. Vous allez bien dormir avec ça. Attendez que la nuit se passe, que tout ça, ça redevienne des petits tas de sable, alléluia. Et après, vous parlez. Et vous faites des pâtés. De sable, alléluia. Alors, Élie n'était pas en état. Dieu, il discute pas. Il dit, ça y est, Élie, là, il est pas bien. Il veut mourir. Il sait même plus ce qu'il veut. Et Dieu ne le juge pas non plus. Élie regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Non, il mangea pas, non, il se mit pas à jeûner, à intercéder pendant toute la nuit, non. Il a mangé, il a bu et il s'est recouché, et c'était spirituel aussi. Parce que c'était pas le moment de jeûner, de prier à cet instant. Ce qui me rappelle l'histoire d'un serviteur de Dieu qui, réunion après réunion, il commençait à être épuisé. Lors d'une campagne d'évangélisation ou un séminaire, et un ange lui apparut au pied de son lit. Et l'ange lui a dit, je suis envoyé du trône de Dieu pour t'apporter un message. J'étais directement envoyé du trône de Dieu. Alors le serviteur s'imaginait que ça allait être un message renversant. Il a demandé à l'ange quel est le message, et l'ange lui a dit, le message de la part de Dieu, c'est dors. Amen. Vous savez, parfois, il faut s'occuper aussi de son corps, parce que Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Amen. Et nous devons trouver l'équilibre. Parfois, on croit être toujours spirituel, mais on peut sortir complètement du plan de Dieu si ce n'est pas le moment de jeûner. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Élie. Il mangea, il but, puis se recoucha. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la grâce. Rappelez-vous l'histoire de mon fils avec l'ordinateur hier soir. Amen. Il méritait ni le gâteau, ni rien d'autre. Amen. Mais il a eu droit au gâteau. Amen. Dieu lui fait un gâteau et lui donne à boire. Et Élie, fortifié par ce gâteau, c'est-à-dire fortifié par la grâce, par l'amour de Dieu inconditionnel, là il se relève et il part pour de nouveaux exploits, il marche 40 jours. Au bout d'une journée, humainement parlant, il est épuisé, ayant reçu la grâce de Dieu qu'il ne méritait pas, il marche 40 jours. Alléluia. Croyez-moi, il y a plus de résultats à marcher dans la grâce de Dieu qu'à marcher avec ses propres forces. Et quand vous pensez parfois que tout est fini à cause de la puissance de la grâce, vous pouvez être à la veille de vos plus grandes performances avec Dieu. Parfois vous avez l'impression que c'est la fin, mais Dieu dit non, c'est juste la fin d'une période. C'est pas la fin des haricots. C'est la fin d'une période. Et la fin d'une période, c'est quoi? C'est le début d'une autre. Le début d'une autre plus grande. Et il y a peut-être des gens parmi nous ce soir, et ils se sentent acculés contre le mur, ils sentent que c'est la fin, et le diable leur fait croire que c'est la fin des fins. Et Dieu dit, non, t'inquiète pas, t'es pas en état pour comprendre ce soir, tu vas aller te coucher tranquillement, tu verras demain matin. C'est juste la fin d'une période. Alléluia! Il y a des moments où nous avons plus besoin de la grâce de Dieu qu'à d'autres moments. Ça signifie quoi dans le concret? Que Dieu nous bénit, nous exauce quand même, alors que nous le méritons moins qu'à d'autres périodes. Et c'est pour ça que ça s'appelle la grâce. Si nous connaissons la puissance de la grâce, nous pouvons la saisir même dans les moments où nous sommes épuisés. Ce serait un non-sens que Dieu nous ferme l'accès à sa personne lorsque nous sommes fatigués, car par définition, le mot grâce, par lequel nous sommes sauvés, n'est-ce pas, signifie don gratuit, don immérité et don du meilleur. En nous faisant grâce, en nous donnant Jésus-Christ, Dieu ne nous a pas seulement donné gratuitement le don du salut parce que personne n'aurait pu l'acheter, n'est-ce pas? Mais il nous a donné ce qu'il avait de meilleur.
Dieu n'avait rien de meilleur dans tout l'univers que son propre Fils unique. Lorsque Dieu nous fait grâce et que nous ne méritons pas sa grâce, mais que nous savons saisir sa grâce, nous recevons un don et nous recevons le meilleur. C'est la nature de Dieu. D'où le sens de ce verset de Paul dans 2 Corinthiens 12 à 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ce qui ne veut pas dire qu'il faut de ce fait rechercher l'état où je ne mérite rien, où je suis faible, loin de là. Ce qui équivaudrait à essayer de tromper Dieu. Et alors, cela nous priverait justement de la grâce. C'est ce que pensait que voulait dire Paul certaines personnes en lui disant, mais dans ce cas, tu dis que pour qu'il en arrive du bien, il faut faire du mal. Et Paul leur dit, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Amen. Mais j'ai voulu faire comprendre qu'avec Dieu, celui qui est fatigué, celui qui est faible, il a quand même accès auprès de Dieu. Et il a parfois encore plus accès auprès de Dieu parce que si vous avez des enfants et qu'un il est handicapé, il est infirme, vous allez encore plus faire pour celui qui est handicapé, qui est infirme, que pour les autres. N'est-ce pas? Et vous croyez que Dieu qui nous insuffle ce genre de sentiment est moins bon que nous? Et qui va nous abandonner lorsque les choses vont mal? Un des messages que nous avons apporté à cette génération, c'est la réhabilitation de l'image de Dieu. Amen. Regardez Jésus dans le jardin de Gethsémané. Voyez-vous, dans la vie, il y a des moments où on doit prendre position sur les ténèbres par des déclarations du genre « Je lis les démons de ceci et de cela » et on doit mettre sa foi en action. Je suis le premier à prêcher ces choses et à insister là-dessus. Mais d'autres fois, ce n'est pas aussi évident de le faire et ce n'est pas alors cette forme d'action qui produira des résultats. Parce que la seule foi qu'on va réussir à libérer, c'est une foi mentale, c'est une foi humaine. Or, la foi de Dieu ne vient pas du mental, elle vient du plus profond. Amen. C'est une foi spirituelle. Normalement, dans la vie, et lorsque nous prions avec foi, on ne prie pas avec des si. Est-ce que vous savez cela? Si vous faites une prière de foi, vous croyez, à l'instant où vous priez, que vous recevez ce que vous avez demandé. Donc vous ne pouvez pas dire « Dieu bénis-moi si tu veux bien ». Non, d'abord tu t'assures dans la parole de Dieu que tu sais bien si Dieu veut te bénir dans ce domaine. Amen. Et une fois que tu t'es assuré que c'est bien son plan, alors tu peux saisir par la foi, par la prière, amen, la chose que tu as demandé. Tu pries, tu répètes même pas ta prière, surtout pas de « si » et tu saisis par la foi, tu crois que tu as reçu et tu attends de voir la matérialisation. Parce que la foi est bâtie sur ce qui s'est passé il y a 2000 ans dans le passé, ça se saisit au présent et ça se matérialise dans le futur. Amen. Gloire à Dieu. Nous ne saisissons pas dans le passé. Non, c'est Jésus qui a tout saisi pour nous dans le passé. C'est pourquoi notre foi est bâtie sur le passé. Mais la foi, elle se saisit maintenant parce que je ne peux pas vivre sur le passé sans le saisir, sans me l'approprier aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix. Amen. Et maintenant, ce que j'ai saisi aujourd'hui, la Bible dit, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, nous croyons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc je crois que j'ai reçu, je commence à louer Dieu avant même d'en voir la matérialisation, parce que cette matérialisation peut intervenir dans les fractions de secondes qui suivent la prière, comme dans les jours, voire les semaines qui suivent la prière. Amen. Quiconque dira à cette montagne, hop, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, croit dans son cœur que ce qu'il dit au présent arrive, il le verra au futur s'accomplir. On est d'accord? Donc en général, le si n'a rien à faire au milieu d'une prière quand on connaît la volonté de Dieu. On peut prier avec des si quand on ne connaît pas la volonté de Dieu. Mais regardez Jésus dans le jardin de Gethsémané. Il était sous une telle pression que prier avec si était tout à fait acceptable pour Dieu le Père. Il lui dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Pourtant, dites-moi, Jésus, il savait bien pourquoi il était venu dans le monde. Qu'est-ce que vient faire ceci au milieu? Il avait enseigné lui-même ses disciples en leur disant, je suis venu pour donner ma vie pour le monde, c'est pour ça que je suis venu dans le monde. Si quelqu'un connaissait quelle était sa mission, c'était bien Jésus, vous êtes d'accord avec moi? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Portant déjà le poids de nos péchés, il a été confronté, parce qu'il était à la fois aussi divin et humain, il s'est identifié à nous, il était confronté à une telle pression que l'humain en lui était dans le flou. Et Dieu a accepté ce flou. Et Dieu a accepté ceci. Amen. Ne laissez pas le diable vous faire croire, si vous connaissez ce genre d'état parfois, vous vous sentez un peu fatigué. Ne le laissez pas vous faire croire, tu sais, il faut que tu attendes d'aller mieux, et alors la victoire sera pour toi. Non, tu peux déjà saisir la victoire dans l'état dans lequel tu es, parce que Dieu veut se manifester même dans ta faiblesse. Alléluia. N'essayez pas, dans ces instants, d'avoir la foi qui déplace les montagnes, parce que vous n'êtes pas en état. Amen. Demandez pas à votre mari, dans cet instant, d'être le meilleur mari du monde. Il veut, mais il n'est pas en état. Au travail, on lui a fait des misères aujourd'hui. Il a juste besoin d'une petite femme qui lui fait un bon gâteau. Amen. Et plus éventuellement. N'essayez pas d'avoir la foi à cet instant pour déplacer les montagnes, d'avoir la parfaite parole au parfait moment. Amen. Ayez parfois plutôt une prière, je dirais, de publicain, quelque chose du genre, « Oh Dieu, sois patient envers moi. » Alléluia. Et invoquez la grâce de Dieu. Comment? Apprenez parfois à répéter cette prière simple. Grâce. Grâce. Parfois je me couche le soir et dans mon lit, je prie grâce. Grâce. J'imprègne mon esprit de la grâce pendant la nuit. Alléluia. Pour me lever le lendemain et bénéficier de cette grâce. Amen. L'autre jour, je prie dans la voiture et j'avais ce genre de prière. Je dis, Seigneur, dernièrement, on a pas mal été éprouvé. Et ce dont j'ai besoin, c'est de voir ta grâce à l'œuvre. Tu vois, j'ai une énorme note d'électricité. Il va falloir la payer. Moi, je suis incapable de la payer, mais toi, tu peux la payer. Amen. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais crée une source insoupçonnée. Je rentre chez moi, 15 minutes après, je me mets à mon ordinateur. Le téléphone sonne et de Paris, une sœur que je ne connais pas, qui suit nos cassettes depuis des années, me dit « Frère !» J'aime vos chants et je fais des doubles de vos cassettes pour les gens qui ne peuvent pas les acheter. Je vais dans les rues, j'évangélise avec, je vais dans les maisons de repos. Mais il y a depuis 3 jours, je me demande si je ne vous fais pas des torts en faisant cela et j'ai eu à cœur de vous téléphoner. Et je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, sœur, dans la mesure où vous l'utilisez pour la gloire de Dieu, les gens ne peuvent pas se les payer, offrez-leur. Amen. Gloire à Dieu. Faites des duplicatas, je suis le plus heureux. Elle a dit, je savais que vous diriez ça. Elle était un peu allumée au bout du fil. Elle a dit, mais j'aime bien les gens comme ça. C'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur de vous poser une question. Est-ce que vous avez besoin d'argent? Alors, j'ai été tenté de, vous savez, tomber un peu dans l'orgueil. Non, ne vous inquiétez pas, Dieu a tout sous contrôle. On est tous tentés. Mais là, je me suis dit, alors, ne fais pas le beau, là. Amen. Dis la vérité. Je lui ai dit, si, c'est vrai, nous sommes acculés en ce moment. Mais enfin, comme j'aime pas les gens qui pleurnichent pour réclamer l'argent non plus, je lui ai dit, mais voilà, Dieu va s'en occuper, vous inquiétez pas. Hop! Elle m'a dit, eh bien, c'est pas un hasard si je vous téléphone, ça fait un moment, Dieu m'a mis à cœur de vous envoyer quelque chose. Je vous envoie 7777 francs. Elle aimait le 7, c'est Dieu qui voulait signer. Alléluia. S'il m'avait dit, je vous envoie 666 francs, je me serais méfié. Amen. Et un jour après, je recevais un chèque de 7777 francs. C'est la grâce. Amen. 20 minutes après, gloire à Dieu, j'étais pas sur la montagne en train de jeûner, j'étais dans ma voiture, en train de me demander comment j'allais payer la note d'électricité. Alléluia. Et vous croyez que Dieu, il aime certains plus que d'autres? La Bible dit que Dieu ne fait point de favoritisme. Donc ça, il veut le faire dans chacune de nos vies. Amen. Dieu, il n'aime pas un plus parce qu'il chante ou parce qu'il tient un micro. Il nous aime tous pareil. Il veut faire la même chose dans chacune de nos vies. Alléluia. Dieu ne juge pas sur l'apparence. Vous savez cela? Amen. Dieu veut bénir tous ses enfants. Sa miséricorde durera toujours. Dites-le à quelqu'un. Tournez-vous vers quelqu'un. Dites-lui, sa miséricorde durera toujours. Toujours, c'est aujourd'hui. C'est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais. Alléluia. Avec le retour de Babylone, la reconstruction du temple, il y avait eu quelques gros problèmes dont le temple avait commencé à être reconstruit selon le plan de Dieu, n'est-ce pas? Nous savons tous. Mais les ennemis de Juda, lorsqu'ils apprirent que les Hébreux reconstruisaient le temple, firent toutes les pressions possibles et imaginables pour les faire stopper. Et voyant que tous leurs efforts étaient vains, ils écrivirent en dernier recours, une lettre d'accusation au roi perse Artaxerxès. Ça aurait appelé Dupont, ça aurait été plus facile. Hein. Alors, ce dernier, celui que j'ai nommé, ordonna alors qu'on fasse cesser les travaux. Voyez-vous, il y a des situations comme cela où le diable essaie tous ses tours et vous résistez avec succès. Puis vient une attaque plus subtile, souvent basée sur l'accusation pour vous faire cesser. C'est pourquoi il ne faut surtout pas avoir ce raisonnement très évangélique. Si les portes sont ouvertes, c'est de Dieu. Si les portes sont fermées, c'est que c'est pas de Dieu. C'est pas vrai. Il y a des portes fermées qui sont fermées parce que le diable les a fermées. Il faut les enfoncer. Et il y en a d'autres qui sont ouvertes parce que le diable les a ouvertes pour nous tromper. Il faut surtout pas passer par ces portes. Amen. Il y en a d'autres fermées parce que Dieu les a fermées, d'autres ouvertes parce que Dieu les a ouvertes. Donc c'est pas sur ce genre de jugement qu'il faut fixer notre vie, c'est sur l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Rappelez-vous de ça, parce que c'est très évangélique de dire si Dieu est avec moi, tout ira tout seul. On me mettra le tapis rouge. Vous croyez qu'on a mis le tapis rouge à Jésus? Lorsqu'il est venu dans le monde, il n'y avait même pas de place à l'hôtellerie pour lui. Vous croyez qu'il y avait le tapis rouge? Amen. Vous avez vu les gens qui ont saisi leur bénédiction? Souvent on a voulu les faire taire, des aveugles. Tais-toi. Non, ils ont crié encore plus fort. Je veux la bénédiction. Lorsque quatre hommes ont mené un paralytique pour être guéri par Jésus, lorsqu'ils sont arrivés devant la porte était obstruée par la foule. Ils auraient pu dire, ah, si ça avait été le plan de Dieu, le tapis rouge aurait été déployé. Non, il n'y avait pas de tapis rouge, il y avait même tous les obstacles de la création. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché une solution, ils sont montés par le toit. Et nous avons besoin de chrétiens aujourd'hui qui sont prêts à monter, à prendre des risques, à passer par le toit pour saisir la bénédiction. Amen. Sans se soucier que les portes soient ouvertes ou fermées. Alléluia. Et c'était la situation là. Les Hébreux avaient commencé à construire selon la directive de Dieu, et voilà que le roi perse, à l'écoute des accusations qui sont données par les ennemis des Hébreux, fait cesser la construction. Parfois le diable arrive à faire cesser le plan de Dieu. C'est pourquoi nous devons persévérer. Amen. Et prier que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Dites-moi, vous croyez que c'est la volonté de Dieu qui se fait autour de nous là? Tous les vols, tous les crimes, toutes les guerres, vous croyez que c'est le plan de Dieu? Vous croyez que ça arrive, Dieu le permet, donc c'est sa volonté? Non! C'est parce que la volonté de Dieu ne se fait pas! Et nous, chrétiens, nous sommes ici pour prier pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel! Ça n'a jamais été le plan de Dieu qu'un petit enfant meurt de faim, amen! Et je ne peux pas dire, ah, puisque Dieu le permet, c'est sa volonté. Non, je suis sur cette terre pour changer le cours des choses en tant que chrétien. Je suis oint par Dieu pour marcher sur les traces de Jésus-Christ. C'est la définition du terme chrétien, petit Christ, celui qui marche sur les traces de Jésus, pour faire les mêmes œuvres, guérir les cœurs brisés, proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Qui se lèvent des chrétiens comme ça? Nous avons trois quarts de chrétiens qui se lèvent pour s'occuper de leurs problèmes. C'est pas pareil. Nous devons nous lever pour nous occuper des problèmes des autres. Et là, l'onction qui est sur nous va briser leur joug. Et pendant que nous brisons leur joug, les jougs de nos propres problèmes seront brisés. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Alors, il y a des situations comme cela où le diable essaie tous ses tours, vous résistez avec succès, puis vient une attaque plus subtile. Et elle est souvent basée, et je reviens au point que nous avons mentionné hier soir, sur l'accusation, l'attaque subtile. Et parfois c'est ce qui arrive à vous stopper et à vous décourager alors que vous venez d'affronter des lions. Cela peut se faire sous diverses formes. Vous apprenez qu'un tel et un tel que vous estimiez vous accuse. Subtilement, par exemple, il a dit que vous êtes à côté de la plaque. Vous apprenez que d'autres chrétiens prient contre vous. Votre femme, votre mari, peut-être sans me faire esprit, vous fait une réflexion désobligeante. Tu t'es vu? Et d'un coup, vous venez d'affronter toute la journée les bêtes, vous savez, et d'un coup, vous craquez avec la dernière flèche, amen. Tu t'es vu? T'as vu à quoi tu ressembles? Et d'un coup, oh, oh. Vous savez, c'est subtil l'accusation. Et c'est pourquoi les maris et les femmes doivent être les meilleurs amis. Parce que celui qui peut le plus me blesser, c'est celui dont j'attends le moins d'être blessé. Amen. mes parents, mes enfants, mon conjoint, mes amis dans l'église, ceux qui sont supposés le moins me blesser. Amen. Et lorsque le diable il arrive à me blesser, nous avons tous blessé quelqu'un, parfois par des réflexions idiotes, n'est-ce pas? Et parfois, nous avons même mis un verset biblique dessus. Le Seigneur t'aime, tiens, prends. Bon. Après, il n'était pas très sûr que Dieu l'aimait, vous savez. Mais comme il y avait le verset biblique, il s'est dit, ça doit venir de Dieu. Ou alors on a dit, l'Éternel a dit. Alors il a dit, ah bon, si c'est l'Éternel qui dit. Attention à tout l'Éternel a dit. Assurons-nous qu'il a vraiment dit. Amen. Parce que les trois quarts de l'Éternel a dit que j'entends moi, eh bien, il les a pas dit. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes battu avec force et soudain, c'est l'attaque démoralisante, la goutte qui fait déborder le vase. C'est ce qui est arrivé à Élie, c'est ce qui est arrivé aux Hébreux. C'est ce qui s'est passé pour la reconstruction du temple. Et nous avons là une situation coincée. Elle n'était pas coincée parce que c'était le plan de Dieu qu'elle soit coincée. Elle était coincée parce que Satan avait réussi à mettre son grain de sel au milieu par la puissance de l'accusation. C'est cette puissance qui rentrait en ligne de compte dans l'affaire du temple. Et cette vérité nous est mentionnée dans Zacharie 3, que nous avons cité hier soir. À cette même époque, justement, c'était l'époque de Zorobabel et de Josué, les leaders. Et Dieu veut réveiller l'esprit de leaders aujourd'hui pour qu'ils réveillent à leur tour l'esprit du peuple. Il est dit, Zacharie 3:1, il me fit voir Josué, rappelez-vous du verset, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Cet homme avait été désigné pour reconstruire, amen, pour encourager le peuple à reconstruire. Josué était un des leaders. Et le voilà accusé par Satan dans le monde spirituel, pendant que les Hébreux sont accusés par l'être auprès d'Artaxerxès, le roi perse, dans le naturel. Amen. Il y a des gens, peut-être ce soir, qui sont accusés par l'adversaire dans le monde spirituel en ce moment, mais ils ne se rendent pas compte que le problème est spirituel, parce que ça se produit, ça se transmet par une autre accusation dans le monde physique. À travers une personne physique. Mais le problème, c'est pas la personne, c'est Satan ou l'ange de Satan qui est en train de vous accuser dans le spirituel. Le problème se règle d'une manière spirituelle. Cette accusation vous blesse, vous fatigue, vous épuise. Voilà un travail peut-être qui a été commencé, et d'un coup, paf, tout s'arrête, et les questions fusent, était-ce bien de Dieu? Est-ce qu'il m'a jamais appelé? Est-ce que la prophétie, alors, dans laquelle j'ai mis ma confiance, c'était vraiment de Dieu, tout ça? Pourtant, je pensais que Dieu était avec moi. Savez-vous combien de temps furent stoppés les travaux qui avaient été commandés par le doigt de Dieu? 15 ans. 15 ans. C'est le diable quand il s'y met, et quand on le laisse faire. Vous voyez les dégâts qu'il peut faire? Il peut arrêter notre ministère pendant 15 ans, pendant 20 ans. D'ailleurs, si on ne reprend jamais, il arrête à vie. Il peut arrêter notre église, il peut arrêter nos amitiés, il peut briser notre foyer. Oui, mais j'étais dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu, mais la Bible dit « prie et éveille ». Plan de Dieu ou pas plan de Dieu, alléluia, il va falloir que ce plan de Dieu, tu le gardes. C'est pourquoi nous avons besoin de chrétiens agressifs. Donnez-moi des chrétiens agressifs. Moi, je connais trop de chrétiens qui sont agressifs les uns à l'égard des autres. Soyez agressifs à l'égard de Satan. Soyez gentils avec les autres. Soyez doux avec les autres. Alléluia. Vous savez, parfois, dans une réunion comme celle-ci, il y a des gens qui sont calmes dans nos réunions. Ils disent, oh, ça ne sert à rien de crier, ça ne sert à rien de danser, ça ne sert à rien de secouer. Mais ils rentrent à la maison, ils crient après tout le monde. Et c'est ici qu'il faut se vider. Alléluia. C'est ici qu'il faut vider l'agressivité contre Satan, amen. Et quand tu rentreras à la maison, tu seras bien, tu seras calme, tu auras tout vidé, alléluia. Tu ne vas pas embêter tes enfants pour le moindre petit problème qui crée, ou ta femme pour le poulet qui est brûlé. Et parfois, c'est les gens les plus sérieux. Bouge pas dans nos réunions. C'est pas de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Ils rentrent dans la maison, alors le repas il n'est pas prêt. Où est le caractère de Christ? Amen. Ça fait rire. Je tiens toujours à vous dire que parfois j'ai des paroles de connaissance. Alors si vous vous sentez visé, je ne connais pas vos histoires. On m'a rien dit, il n'y a rien. Il m'est arrivé de faire des réunions avec des gens qui étaient en train de virer au vert, au bleu. Je savais même pas pourquoi. Je racontais des histoires. Et la seule personne que je regardais dans toute l'assemblée pendant toute la réunion, c'était le gars. Et il allait trouver le pasteur. Après, il lui disait, pourquoi tu lui as raconté toute ma vie? Et je ne connaissais pas sa vie. Amen. Je sais même pas pourquoi je l'ai regardé. Alléluia. Oh, parfois j'ai des surprises, alors j'aime bien me prévenir, vous savez. Parce que j'aime bien prier pour avoir le message de Dieu et parfois même l'histoire de Dieu, vous savez. J'aime bien l'humour aussi. Amen. Mais c'est pour ça que parfois je débarque dans une église où la plupart du temps je dis, bon, on parle juste des choses nécessaires, mais pas plus. Je veux pas connaître les pour pas être conditionné. Alléluia. Vous êtes pas conditionné comme ça. C'est-à-dire que si vous connaissez un problème, après vous dites, oh, celle-là d'histoire, je peux pas la raconter. Celle-là, je peux pas. Celle-là, je peux pas. Amen. Et vous êtes lié. C'est une très bonne chose à faire si vous êtes dans le ministère. Alléluia. Essayez d'en savoir le moins possible sur l'église dans laquelle vous allez exercer le ministère. Afin que ce soit le Saint-Esprit. Amen. Donc, ces travaux furent stoppés pendant 15 ans. Il y avait de quoi oublier la vision de Dieu, peut-être ton ministère, peut-être quelque chose que tu as commencé à faire pour la gloire de Dieu, peut-être lorsque tu étais jeune, a été stoppé pendant des années, mais Dieu te dit ce soir, il n'est jamais trop tard. Amen. Ranime la vision, je suis avec toi, dit le Seigneur, dans ta faiblesse. Le prophète Zacharie est alors venu apporter au peuple la manière de Dieu, si je peux dire, pour sortir de cette passe particulière. En s'adressant à Zorobabel, un des leaders en ces termes, Zacharie chapitre 4, versets 6 et 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit. Comment une personne vous téléphone de Paris, que vous ne la connaissez pas, elle vous fait un chèque de 7777 francs. Qu'est-ce que vous avez à voir là-dedans au niveau humain? Amen. C'est spirituel. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Peut-être que le problème est grand, peut-être que la montagne est grande, peut-être que les ennemis sont nombreux. Mais Dieu dit, qui es-tu? C'est quoi ça devant l'Éternel? Alléluia. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, devant l'homme que j'ai établi? Alléluia. Rappelez-vous une chose. Dieu met des hommes pour vous aider. Ces hommes sont imparfaits. Si vous voulez savoir, moi je suis imparfait, vous n'avez qu'à demander à ma femme. Ok? Mais il veut que vous colliez, pas trop fort le Amen quand même. Il veut que vous colliez, alléluia. Il veut que vous colliez à cette onction. Amen. Comme Élisée a collé à l'onction d'Élie. Élie est imparfait, nous venons de voir qu'Élie est imparfait, amen. Alors quels que soient les problèmes, les troubles dans une église, les combats, si Dieu vous a donné quelqu'un et vous devez coller à l'onction, faites attention de ne pas vous séparer de l'onction tant qu'elle n'est pas venue sur vous. Amen. Regardez, lorsque Lot, il s'est séparé d'Abraham, ça a été le commencement de sa fin. Amen. Il croyait que toute sa richesse, c'est par ses propres forces qu'il avait, c'est qu'il collait à quelqu'un qui était béni, à quelqu'un qui était oint. Alléluia. Si Dieu vous met dans une église où il y a une onction, vous devez chercher une église, pas obligatoirement celle-là, celle où vous sentez que Dieu vous veut et vous sentez qu'il y a une onction pour vous personnellement et vous devez coller, quelles que soient les imperfections de cette église, jusqu'à ce que la double onction vienne sur vous. Amen. Mais vous aurez plusieurs occasions, comme Élisée, de vous séparer de cette onction. Et vous avez vu, Élie, il en rajoute. Il donne toutes les occasions à Élisée de se séparer. Écoute, maintenant il faut que j'aille là-bas, laisse-moi tranquille. Amen. Et Élisée, il dit non, 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 je colle, je veux l'onction. Amen. Je veux être là lorsqu'il se passe quelque chose. Je veux être là lorsque la double portion va descendre sur moi. Alléluia. Et nous continuons dans ce verset avant de terminer. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Quelles acclamations? Grâce, grâce pour elle. Ouh! La simple invocation de la grâce de Dieu a mis au bénéfice de cette grâce les Hébreux, a permis aussi la reconstruction du temple. Amen. Le temple a redémarré, la reconstruction, au milieu des acclamations de grâce. Pourquoi? Parce qu'il ne redémarrait pas à cause de tous les mérites des Hébreux. Il redémarrait à cause de la grâce de Dieu. Et ce soir, nous voulons saisir la grâce de Dieu. Et cela, ça signifie que les démons ont été vaincus, les ennemis ont fui dans cette situation particulière par l'invocation de la grâce. À une époque où la grâce n'était pas aussi forte et disponible qu'aujourd'hui que Jésus est venu. Ces hommes ont su libérer une situation coincée alors qu'ils n'avaient pas encore Jésus. Et nous, nous avons Jésus. Il n'y a pas de plus grande puissance de grâce que celle qui est entre nos mains. Même ceux qui sont venus avant nous ne l'ont pas possédé. Et ça a marché déjà pour eux. Alléluia. Alors je ne dis pas que c'est la chose à faire dans chaque situation. Il y a des moments, je vous l'ai dit, Dieu va nous demander des choses précises et des efforts précis. Mais il y a d'autres situations où nous sommes fatigués, épuisés, et le diable veut nous séparer de la présence de Dieu. Mais je veux te dire ce soir que Dieu, il est là, il est disponible pour toi. Amen. Tu dois apprendre à saisir la puissance de la grâce. J'avais reçu à l'époque où je faisais ce message, cette parole, chapitre 30, versets 18 et 19 du prophète Isaïe. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. C'était au milieu des acclamations. Grâce ! Ce n'est pas grâce. Grâce ! Amen ! Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai annoncé ce message à l'Assemblée, amen ! J'ai fait crier grâce aux gens dans l'Assemblée, je l'ai crié moi le premier, parce que je pars toujours du principe, si personne ne reçoit mon message, moi je le reçois. Au moins ça marche pour quelqu'un. Quand je suis sorti, quelqu'un m'a donné 2500 francs. Le lendemain, lundi, un chèque d'offrande pour pouvoir nos besoins du mois. J'ai continué à crier grâce. Amen. J'ai pris Philippe le Sage ou un autre frère. On est allé boire un café. Alors nous sommes rentrés dans un bar, pas pour boire de la bière, pour boire un café, je vous rassure. Alléluia. Le gars me regarde, il me dit, je vous offre le café. L'après-midi, je dis, ça marche. Je dis, je vais reboire un café l'après-midi. J'arrive à un autre endroit, la personne me dit, je vous offre le café. L'enseignement, c'est pas que si vous voulez vous faire offrir des cafés, il faut crier grâce, grâce partout. Alors, d'accord. Mais Dieu le fait pour tout. Alléluia. Grâce. Alléluia. Nous avons besoin de la grâce les uns les autres. Je vous le disais hier, votre mari a besoin de votre grâce. Amen. C'est pas toujours facile d'être un mari, d'être un homme dans cette société. Amen. Votre femme a besoin de votre grâce. Alléluia. C'est pas toujours facile d'élever des enfants. Amen. De dire le soir, il faut qu'elle soit prête. J'ai plus qu'à mettre les pieds sous la table. Non, écoute. Amen. Elle a besoin de ta grâce. Amen. S'il n'y a rien qui est prêt, ben va faire la vaisselle, fais quelque chose. Glorifie Dieu. Amen. Nous ne sommes plus de ce monde, nous ne fonctionnons plus comme les gens de ce monde. Nous sommes là pour nous faire grâce. Votre pasteur, il a besoin de votre grâce. Vous avez besoin de sa grâce. Vous savez, parfois on imagine, tout le monde a droit à la grâce, sauf le pasteur. Pourquoi ? Ben chez nous, d'ailleurs, ça ne marche pas, parce qu'en général, les gens disent, de toute façon, il est payé pour ça. Nous, quand personne n'est payé, ça règle le problème. Il est payé pour tout supporter. Non, il est dans un corps de chair comme toi. Une fois qu'il a prêché, il a la même onction que toi du Saint-Esprit, résident en toi, pour affronter le diable, pour affronter la chair, pour affronter les tentations. Il a besoin de la même grâce. Amen. Donc si tu veux recevoir la grâce du pasteur, tu dois aussi lui donner ta grâce. Sinon, tu n'as pas droit à la sienne. Amen. Donc brisons toutes ces fausses mentalités. Alléluia. Nous sommes un peuple qui est appelé être revêtu d'un esprit de grâce, et spécialement dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, parce que c'est une promesse particulière qui concerne ces temps, Zacharie 12, 10, et nous allons terminer par là. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Vous savez, c'est le prophète Rick Joyner qui a eu des visions très intéressantes de Jésus. Et une des choses qui lui a été dite au sujet de la dernière église qui va rentrer dans le réveil qui vient, c'est que cette église, elle a besoin de plus de grâce. Non pas qu'elle mérite plus de grâce, mais elle a besoin de plus de grâce. Vous savez, nous vivons dans un monde matériel. Nous avons la possibilité d'être oppressés 100 fois plus qu'il y a 2000 ans. La plupart des gens, il y a 2000 ans, ils avaient leur petit potager. Aujourd'hui, si vous n'avez plus d'argent pour faire démarrer votre voiture, vous êtes à l'agonie, à l'espace d'une semaine, dans ce monde matériel. Nous avons besoin de grâce. Dès qu'il n'y a plus un centime à la maison, vous êtes coincés, vous ne faites plus rien, vous ne pouvez plus aider personne, parce que nous sommes coincés dans un monde matériel. Ce n'était pas le cas de ceux qui vivaient il y a 2000 ans, avec les ânes, avec les sandales. Nous avons besoin de plus de grâce. Donc, Dieu veut nous donner plus de grâce, non pas parce que nous méritons plus de grâce, mais tout simplement parce qu'on a besoin de plus de grâce. Amen.